Oh, mais... Où est-ce que je les ai mises? J'étais persuadé qu'ils avaient mis là. Chérie!
Quoi?
Où sont les clés?
Mais je sais pas, moi.
Mais tu les bouges tout le temps.
Tu perds tout.
Oh, mais si seulement j'avais un endroit où les ranger facilement.
Écoute, tu veux pas t'acheter un sac pour mettre tes affaires un peu?
Un sac? Pourquoi un sac alors qu'il existe le EVgo?
Le EVgo? Mais qu'est-ce que c'est?
Grâce à son ouverture facile à hauteur de l'abdomen, le EVgo peut loger toutes vos affaires. Comme vos clés, par exemple.
Chérie, j'ai la solution.
À la bonne heure.
EVgo.
Poche supplémentaire vendue séparément, voir conditions en magasin.
Maman! J'ai faim, maman! Oh, ma mère, elle me fait jamais à manger, c'est vraiment une mère indigne. Si seulement j'avais un appareil comme un Thermomix.
Un Thermomix!
Oh, c'est encore le même gars que tout à l'heure!
Sais-tu que le meilleur poulet Yassa se prépare dans le EVgo?
Waouh, j'adore le Yassa qu'il a cuisiné, il est meilleur que celui de ma mère et de Léa Seydoux dans le bus. Merci, je me régale, à la bonne heure.
EVgo.
Papa, j'arrive pas à dormir, j'y vois des intestins dans mon sommeil.
Ah, mais jamais il a ferme, ce gosse, si seulement papa. Je pouvais faire autrement que l'endormir qu'avec des somnifères.
Des somnifères? Non, il existe le EVgo. EVgo. Le EVgo servira de doudou à votre enfant, ainsi il pourra dormir plus de 14 heures par nuit.
Ah, il va enfin la fermer.
Ah, trop bien, maintenant je dors mieux, j'ai des super notes à l'école.
EVgo.
J'en peux plus, toutes ces fiches de révision, là. Elle est où, cette date? Oh, franchement, je déteste les livres d'histoire.
Les livres d'histoire? Avec le EVgo, vous n'avez qu'une question à poser.
Ok, Vigo. C'est quoi la date de la Révolution française?
14 juillet 1789, Clémence.
Merci! Avec ça, le bac d'histoire, je l'ai dans la poche.
Le EVgo, avec son Viggo Mortensen taille réelle, est une révolution. Livré avec sa télécommande Simon abdominal, le EVgo s'occupera de toutes vos tâches ménagères. Ainsi, plus aucun problème à la maison et plus de temps pour les enfants. EVgo, ne passez pas à côté de cette offre. Si vous le commandez tout de suite, il vous sera livré avec son socle chargeur Scarabée.
EVgo!
Chérie, t'as vu mon EVgo? J'en ai besoin comme sac et pour faire à bouffer et comme doudou.
Attends, je suis occupée.
Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, j'entre.
N'entre pas!
Ah mais, chérie, mais comment tu te sers du EVgo?
EVgo.
Dans la limite des stocks disponibles. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier David Cronenberg dans l'épisode 88. Enfin, histoire, c'était la pub, le EVgo, évidemment. Le EVgo, on avait pas mal déliré dessus et son ouverture facile, sa télécommande Simon, le EVgo, le Divigo. Commandez-le. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis, ceux de la presse, c'est parti pour le match retour des crimes du futur.
DJ, qu'est-ce
que ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour des crimes du futur, le dernier David Cronenberg qui était en compétition à Cannes mais qui malheureusement n'a rien gagné, oui spoiler alerte. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, ce sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team d'agro au bistouri. Clémence est là, salut Clémence.
Salut.
Comment se porte ton...
Écoute...
Ton troisième bras sur l'anus.
C'est un peu comme une queue de singe, hein, on s'y habitue.
Oui, c'était parti d'un problème d'incompréhension, elle le voulait sur la nuque.
Ah merde, ah, ouais. Oui, à quoi ça se joue, hein.
Le chirurgien
des
avait...
fois, hein. L'élocution.
Eh oui, Kevin qui est très bien assis pour le coup.
Ah mais je suis assis en permanence, c'est génial.
Avec ses fesses sur la voûte plantaire. Kevin est là.
Oui.
Ça va?
Ouais, sur le cul.
Toujours sur le cul.
Toujours sur le cul.
Toujours sur le cul. Et deux autres patients qui n'étaient pas avec nous pour se faire la BA.
Oui.
Clément est là.
Oui, alors moi, bon, bah, comme je bois pas mal, je me suis fait un décapsuleur dans la paume de la main. Ça va plus vite.
C'est vrai, c'est
je décapsule,
pratique.
Hop, t'en veux une?
Allez, et William est là aussi, autour de la table pour parler de ce film. William, salut.
Oui, bah moi j'ai un range épice dans les dents.
Très pratique.
Ouais.
Tu me donnes un peu de curry?
Non.
Ah,
il n'est pas prêteur.
Ça sert à rien ce truc.
Il n'est pas prêteur. J'ai pas dit que c'était pour les autres, j'ai dit que c'était pour moi.
C'est sûr que pour ranger les épices, il existe aussi le... EVgo.
EVgo. Mais alors moi je m'en sers pour bloquer mes bouquins dans la bibliothèque.
très pratique, très pratique. Le Ivigo pour ça aussi fait bloc libre.
10 fonctions.
Salut tout le monde.
Salut.
Aujourd'hui, match retour des Crimes du futur de David Cronenberg. Beaucoup de choses à dire peut-être sur ce film, mais avant toute chose, où est-ce qu'on va situer nous en termes de spoil pour ce film? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à spoiler? Je ne sais pas.
Je sais pas trop.
El Calculator va nous dire tout. El Calculator, salut.
Salut les opérés.
Et
salut.
Bonjour.
Ça roule.
Toi aussi, opération dernièrement. Voilà.
Oui.
Oui, tu...
J'ai des nouveaux bruits qui arrivent n'importe quand.
C'est un peu comme des paix au final.
Oui, exactement. Oui, exactement.
C'est fou ça se lance tout seul.
Tout seul.
Ah mais oui, opéré par le docteur
Cronenberg, oui, qui m'a ajouté des nouvelles fonctions de morphing et d'humour.
Que tu nous présenteras dans l'épisode qui va
bien
suivre
sûr,
celui-là.
Pas tout de suite.
Et un peu de teasing. El Calculator, où est-ce qu'on situe en termes de spoil pour cet épisode?
Les Crimes du futur, nous allons spoiler à hauteur de 65%.
65%.
C'est énorme.
Donc pas tout.
Oui. Non mais c'est vrai qu'il y a des petits...
Ah t'es devenu précis.
Et en vrai pour les gens ça fait pas une différence en fait, parce que 100% ou 65% ils ont pas envie.
Bah si, peut-être qu'il y en a, ils sont là en mode attention, s'ils disent 100% j'arrête. Et peut-être que là ils ont entendu 65, du coup ils continuent.
Ils vont peut-être rester.
Ce qu'ils savent pas c'est qu'on spoil que la fin.
Dites-nous si c'est utile ou pas.
Est-ce que vous aimez être à moitié spoilé?
Dites-moi si je suis au chômage après.
Ah non, t'as plein d'autres fonctionnalités inutiles,
oui,
Calculator. Bien sûr, comme par exemple...
La roue de la chance.
Qui n'est pas inutile, effectivement.
Qui est utile. Qui est... La roue de la chance.
La roue de la chance. La roue de la chance qui sert à, El Calculator ?
À résumer le film. Bon chance à celui qui va gagner.
Voilà, là, c'est clair. La roue de la chance va désigner par pur hasard. C'est une roue qu'on fait tourner.
Hasard.
Et qui va désigner celui qui va résumer, ou celle qui va résumer le film de la semaine.
Je la lance.
Allez. Suspense.
Clément.
Putain, t'en as de la chance.
C'est pas... Ah, c'est vraiment pas de chance.
C'est irrésumable.
Mais c'est toujours
toi,
non ?
Bordel.
Si, c'est résumable.
Okay.
Je vais t'aider un peu si tu veux.
Bon. Comment on fait ? Non, pas chronologiquement parce que ça aurait pas de sens.
En 1955,
alors,
Viggo Mortensen.
Nous sommes dans un futur où plus personne ne ressent la douleur. Et dans ce futur...
Et non, pas d'infection non plus, très important.
Et plus de... pas d'infection, pas de maladie. Et dans ce futur, Sol Tenser et Léa Seydoux, non, je ne
Caprice.
Sais pas. Caprice. Sont un duo de performeurs qui, en gros, se donnent un spectacle chirurgical. C'est-à-dire que Caprice fait des ablations d'organes sur Sol qui, on ne sait pas trop pourquoi, développe des organes nouveaux à l'intérieur de lui. Et elle les coupe en public et c'est filmé. Et il y a même des fois des tatouages d'organes. Enfin, voilà. Donc, il y a toute une performance autour de la chirurgie dans ce monde-là. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à faire ça, mais c'est quand même un truc un peu underground. C'est pas du tout réglementé. C'est un truc où les gens viennent filmer un peu en loose day. C'est un peu aussi sexuel et excitant pour les gens de cette époque. Et donc, il y a un bureau qui se montre, qui est le bureau de classification, de registre des organes.
Des organes, ouais.
Registre des organes, qui en gros demande à Sol Tenser de venir pour qu'il fasse répertorier les organes qu'il a fait pousser en lui, etc. Ça, c'est un premier truc. Il y a aussi une brigade qui s'appelle la brigade des nouvelles mœurs, qui en gros est chargée de traquer un peu ces humains qui évoluent de manière étrange avec des nouveaux organes et tout, pour s'assurer que l'humanité ne s'éloigne pas trop de ce qu'elle est au départ. Et en parallèle de ça, il y a des gens qui sont capables de manger le plastique grâce à des opérations qu'ils se sont eux-mêmes fait. Et c'est un espèce de groupe ou de secte un peu qui évolue en périphérie de tout ça et qui est capable de manger le plastique. Sauf que dans cette secte, il y a un couple qui a eu un enfant naturel qui est capable de digérer le plastique sans opération.
Voilà, il a développé un organe naturel.
Il a évolué et donc il est capable de faire ça naturellement. Et cet enfant est tué dès le début du film. Et en gros, le père de cet enfant propose à Saul de pratiquer une autopsie de son enfant sous une forme de show. L'enfant s'appelle Brecken, donc c'est le Brecken Show, et de réaliser l'autopsie de son enfant.
De dévoiler son intérieur.
Voilà,
finalement.
De dévoiler son intérieur pour montrer que il est naturellement possible de digérer le plastique. Sauf que ça n'arrange pas la brigade des nouvelles mœurs, et du coup, ils vont faire plusieurs choses qui vont rendre tout cela un peu compliqué.
Et c'était pas trop mal résumé.
Ouais.
Et franchement, c'est tout à fait ce film.
C'est bien.
Voilà.
Mais t'as oublié de spoiler la fin.
On a aussi autour de ça une espèce de compagnie qui s'appelle, j'ai oublié leur nom,
De oui, l'entreprise là qui fait
Machine Tech.
Ah oui, Lifeformware.
Lifeformware.
Qui conçoit des objets qui permettent d'optimiser les humains. Genre, par exemple, il y a une chaise qui permet de mieux digérer. Donc, quand tu t'assois dessus et que tu manges, ça te bouge comme ça les organes, comme le limbo, et tu digères mieux. Et il y a aussi des lits comme ça pour mieux dormir, etc.
Le fameux truc scarabée dont on parlait dans la BA, en fait, c'est tout ça. Et du coup, ça fait énormément écho avec le cinéma de Cronenberg où on retrouve ces formes un peu squelettiques, un peu chelou à la existence, organique, ultra glauque, clairement, mais qui apporte. Ce petit côté qui donne la poésie du film, enfin je sais pas.
Et d'ailleurs le Simon que Léa Seydoux elle manipule en fait c'est vraiment lié à la table d'opération sur laquelle ils font leur performance qui est en fait aussi un des produits de cette société. De base c'était fait pour les autopsies mais eux ils l'utilisent comme
ils ont détourné ça pour l'art.
Ils hallucinent de voir ça. Waouh, vous avez encore un sarcophage.
Bonjour, je suis un Avenger, enchanté.
Tony Stark. Ouais, difficile à résumer, voilà, film très bizarre, ça on l'avait pressenti avec la BA, mais par contre, est-ce que ça, BA, nous a vendu le produit final qu'on a vu, nous, au cinéma? C'est la grande question qu'on se pose toutes les semaines.
Dans quoi?
Dans le douille ou pas douille.
C'était une douille. C'était pas une douille.
Pour rappel, on avait vu une BA qui sentait la douille parce qu'on a eu une longue discussion autour de sa forme, autour du public qu'elle voulait attirer avec ce qu'elle montrait. On avait pensé à une BA très élitiste parce que ça parlait beaucoup aux fans de Cronenberg et pas forcément à nous. Genre Erwan et moi, on était un peu les cobayes pour cet épisode alors que Kevin et Clémence avaient beaucoup de références qui popaient comme ça en voyant le film alors que nous, on était juste face à un produit ultra chelou en voyant la BA. On était en mode « Waouh, non, ça me rebute ». Plus qu'autre chose à aller le voir. On avait aussi dit que c'était une BA clairement formatée pour Cannes. Bref, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que sa BA, au final, nous a vendu le film que nous, on a imaginé en voyant cette BA, c'est-à-dire un film qu'on ne voulait pas voir? Enfin, du moins pour Erwan et moi, et pas pour Clémence et Kevin. On va commencer par vous, tiens, les colocs. Kevin, douille ou pas douille?
C'est une douille, mais de toute façon, j'en avais parlé dans l'épisode BA, je trouvais que la BA était mauvaise et j'étais persuadé que ça montrait pas le fond du film, et c'est le cas. La BA était orientée, genre, vous allez voir, c'est choquant, vous allez voir des boyaux, vous allez être en discomfort, c'est horrible. Et en fait, pas du tout, c'est un film qui est beaucoup plus profond que ça, qui est, comme d'habitude chez Cronenberg, surtout centré sur des réflexions sur l'art, sur la philosophie, sur une forme d'existentialisme par le corps. Donc ouais, douille, mais plutôt positif, parce que à la fin, j'ai plutôt apprécié le film.
Oui, et puis c'est tout, j'ai pas précisé, mais c'était une BA qui impossible de, il y avait aucune intrigue qui
ouais, la narration était compliquée.
Qui sortait de la BA, il y avait pas assez d'indices pour savoir où est-ce qu'on allait. C'était vraiment juste quelques scènes plongées comme ça. La chirurgie et le nouveau sexe, c'était la seule info qu'on avait, quoi, vraiment. Clémence, douille ou pas douille du coup?
Je suis pas tout à fait d'accord avec Kevin. Pour moi, c'est pas douille parce que c'est quand même assez en phase avec la BA dans le sens où c'est un film de Cronenberg qui est pas le plus accessible au départ et qui est quand même assez référentiel avec sa filmo et ses thématiques. Donc comme la BA, je trouve que ça parle peut-être plus quand même tout le long aux gens qui connaissent son cinéma. Et puis pas douille aussi parce que en vrai, moi, la BA, elle me donnait envie et du coup, le film, il m'a pas du tout déçu. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà.
William.
Plutôt douille, c'est vrai que la BA me vendait un film un peu plus extrême, un peu plus radical, je m'attendais à un truc un peu plus gore, c'est pas trop le cas.
Ah, tu t'attendais, toi tu voulais
du... Ouais, non, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus violent, ouais.
Ah, ouais,
à ce qu'il y a des scènes un peu plus, plus extrêmes, plus engagé dans le sang, dans les tripes, dans les bons.
C'est vrai qu'il nous avait vendu.
Ouais, je trouve que.
Il avait dit les 5 premières minutes vont choquer Cannes.
Ouais. Oui, mais en fait, on va en parler. Pour moi, si, c'est choquant. Alors. Mais pas dans le sens que vous attendiez.
Oui, oui.
Ouais,
oui,
moi, après, personnellement, je suis pas un gros fan de ce genre de scène en plus. Donc, c'est vrai que j'y allais un peu à reculant, puisque moi, tout ce qui est sang et tout, ça me dérange pas trop, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, plutôt douille, j'allais dire positif, puisque j'ai passé un meilleur moment que ce à quoi je m'attendais, à ce niveau-là en tout cas.
Et Clément ?
Non, pour moi, c'est une douille pas positive. La BA plus les propos de Cronenberg m'avaient vachement donné envie quand même de voir le film. Ça promettait un retour un peu au body horror, ce qu'il a vraiment fait au début de sa carrière, mixé avec ce qu'il a fait ensuite, c'est-à-dire quelque chose de plus psychologique. Moi, j'attendais vraiment beaucoup le film. Honnêtement, j'ai été très déçu et l'attente n'a pas été comblée chez moi. J'ai pas trouvé ça ni très choquant et ça à la limite, bon, ça me dérange pas, mais surtout j'ai pas trouvé ça très marquant, je l'ai un peu déjà oublié et c'est son film que j'ai le moins aimé perso.
Ah, et toi Romain?
Écoutez, oui, BA pas ouf, BA nul même, on a clairement lâché le terme, mauvaise BA qui était marketée d'une manière trop élitiste, qui visait les gens de Cannes et qui avait complètement oublié la plèbe à côté, donc on avait vraiment l'impression de nous, des mortels, de puer de la gueule. Donc du coup, je me sentais vraiment moi éloigné du délire Cronenberg.
Mis de côté par la promotion.
Et voilà, la promotion du coup ne m'attirait pas, ça ne me vendait pas quelque chose que j'avais envie de voir au cinéma. Si je n'avais pas fait cette émission, je serais clairement pas allé voir le film, je pense. Et pour le coup, c'est une douille en fait, mais positive comme pour Kevin, parce que tout le propos de l'art autour du film, moi ça m'a emballé tout de suite, une fois que dans les premières minutes, quand on comprend qu'en fait ce sont des performeurs artistiques et qu'en fait tout ça n'est qu'un show et que du coup il y a une réflexion sur l'art en fonction de ses organes qui sortent, enfin bon bref, toute cette réflexion qui vient de se coller aux thématiques de Cronenberg, pour moi ça a plus fonctionné. Enfin, le fait d'avoir cette réflexion sur l'art m'a plus donné envie de continuer dans le film, et du coup j'ai apprécié le film par rapport à ça, par rapport à cette vision là plus que dans les scénarios qu'on s'imaginait bêtement en faisant la BA, parce qu'on n'avait aucun indice. Et je trouve ça totalement con qu'ils aient pas tourné la BA sur ça, vraiment en les présentant comme des performeurs artistiques et en montrant ça. Après, je pense que ça aurait attiré plus de gens.
Surtout que c'est dans le synopsis, je crois.
Oui, mais ouais, ok, c'est vrai qu'après le commun des mortels aussi lit le synopsis, nous on le fait pas. Mais normalement, la BA elle devrait suffire à elle-même, normalement. Et je trouve ça dommage qu'elle nous ait juste balancé comme ça des images où on doit nous-mêmes faire des films trop difficiles pour avoir l'intrigue. Et non, j'ai bien kiffé la réflexion sur l'art. J'ai bien kiffé la réflexion sur beaucoup de choses dans le film. On va en parler tout de suite. Qui veut se lancer sur Clémence? Clémence va
dire peut-être qu'il y a des teams.
Il y a des teams là? Ah oui, vous deux. Vous deux, du coup, bah, on est trois contre vous deux. Les colocs et moi contre William et Clément. Fight.
Vous avez tort.
Ben non, moi je trouve ça déjà super intéressant, Romain, que tu soulèves la thématique de l'art et que tu l'aies vu sous cet angle-là, parce que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que j'ai en effet vu la même chose que toi, mais j'ai aussi vu plein d'autres choses et je trouve qu'il est hyper riche et hyper intéressant à analyser. Alors c'est sûr que c'est du cinéma plus analytique que émotionnel, ça te raconte pas une histoire qui va t'émouvoir aux larmes pour les personnages, mais c'est une histoire qui va plutôt te faire réfléchir et te lancer plein de propositions et de questionnements. Ce que j'ai adoré en sortant du visionnage du film, c'est que j'avais pas trop compris comment les choses pouvaient s'imbriquer, le rapport entre les personnages, qui se positionnait comment pendant le visionnage. Et en sortant, toutes les pièces du puzzle se sont agencées d'un seul coup de façon hyper limpide. Et donc, c'est vrai que j'ai vu pas mal une métaphore de l'art et du positionnement de Cronenberg par rapport à l'industrie, même hollywoodienne et tout, par rapport aux prix qui peuvent être décernés au film. On y pense quand on voit le concours d'organes où il y a des catégories de prix et où on l'approche pour lui proposer à Salt and Sir de participer à ça. On pense beaucoup à Cronenberg et ses films. Et puis j'ai vu aussi d'autres thématiques. Par exemple, une thématique intéressante sur l'évolution du corps des hommes et un peu écologique quelque part, ouais, qui est une vraie proposition, une vraie idée, qui apparemment en plus fait sens parce que il y a apparemment vraiment des recherches scientifiques pour essayer de faire en sorte que les hommes digèrent le plastique. À l'avenir. Donc voilà ce côté finalement l'espèce de secte, tu disais Clément, pour moi c'est plus un groupe d'activistes, ouais, qui veulent accepter que le corps humain évolue contre l'ordre établi, qui au contraire veut essayer de contenir le truc, parce que comme les gens ne ressentent plus la douleur, ils ont trop peur que les gens se mettent à faire n'importe quoi avec leur corps, et du coup ces gens-là ont envie de montrer et de prouver, montrer aux yeux du monde qu'il y a une vraie évolution qui se joue. Et je trouve que c'est intéressant d'imaginer que oui, c'est dans un monde où on voit quand même à la première scène que le gamin joue dans des débris, des trucs échoués, une plage très polluée en fait, on voit un bateau, une épave de bateau derrière.
Ouais, la première scène, moi, elle m'a fait écho, parce que première scène, tout de suite, bêtement, j'ai pensé au Costa Concordia.
Ouais, voilà.
Et Costa Concordia, tu sais, c'est le bateau qui est...
En Italie. Oui. Mmh.
Voilà, et c'est un seul mec qui a foutu tout le monde dans la flotte, quoi, qui a tué, ouais, des gens et tout, donc je me suis dit déjà, bam, on a clairement la base du film où on est sur l'erreur humaine. J'ai l'impression que si on est arrivé à ce monde dystopique là, ce côté post-apo là, c'est parce que c'est l'humain qui a amené à ça, quoi. C'est pas autre chose, c'est pas une météorite ou quoi. Donc on va payer des conséquences de l'homme, et puis bim. Pour moi, je suis parti direct là-dedans, Et c'est vrai que après,
mais c'est des trucs que tu vois pas
politique, quoi, pour le coup.
Voilà, tu les vois pas forcément au moment où tu regardes le film, mais tu y repenses après, et donc ça dessine bien clairement un monde pollué, futuriste, mais pollué, assez sale. Sale, pas dans le sens organique, mais sale dans le sens où on l'a sali avec du plastique et des matières comme ça. Et puis, ben, c'est hyper intéressant, je trouve, justement, le parallèle avec l'évolution de notre corps par rapport à ça. Et le dernier aspect que je trouve aussi super intéressant, c'est ben, du point de vue de la sexualité et de l'érotisme, en fait. C'est vraiment parce que j'ai lu un article après coup qui prenait complètement cet angle d'analyse-là, en disant que ça a toujours été le truc de Cronenberg, Kevin le disait un peu... à l'épisode BA, c'est toujours été l'angle de Cronenberg que de montrer un peu d'autres formes de sexualité, des un peu alternatives, voilà, autres que le rapport purement hétéronormé ou voilà, pénétration classique. Et là, pour le coup, on est sur un film où il n'y a aucune pénétration, si ce n'est celle des entailles, tu vois, qu'ils peuvent se faire, les personnages.
Quand c'est quand même un boyaulingus.
Ouais, oui, mais... à un moment, il s'excite avec Stuart, je crois, et tout. Enfin, il se roule des pelles et tout, puis lui il dit ah, voilà, désolé, j'y arrive pas trop.
Je suis pas doué pour le vieux sexe.
Pas doué pour le vieux sexe. C'est
marrant, j'ai trouvé ça hyper touchant, cette scène, parce que ce que je disais à Kevin après qu'on ait vu le film, c'est que typiquement, pendant tout le film avant cette scène, on ne voit jamais de baiser classique. Et du coup, cette scène où Kristen Stewart elle embrasse Viggo Mortensen, je trouve que c'est hyper fort d'un seul coup, c'est hyper touchant. Et le fait qu'à ce moment-là, en effet, le dialogue dise le vieux sexe. Ça dit tout, en fait.
C'est triste pour elle, parce qu'en fait, elle est coincée dans le passé, elle est juste en train de les admirer, mais en fait, elle pourra jamais être à son niveau d'évolution, en fait. Donc, elle tente de se rapprocher de lui avec le vieux sexe, mais le vieux sexe a plus d'effet sur lui, parce que lui, il a une strate d'évolution qui est supérieure, quoi.
Ouais, et on n'est pas forcément touché profondément par l'histoire, mais par contre, je trouve que les personnages, ils ont chacun des positions qui sont super intéressantes et qui sont bien incarnées, justement.
Mais c'est vrai que ça reste, même politiquement parlant, ça reste pas mal à creuser aussi, parce que le film a été tourné en Grèce, dans les quartiers, les décors sont ultra miteux. On voit des gens qui soi-disant font partie un peu de la classe, quoi. La classe...
Des bourges.
Oh, comment tu parles
des bourges. Voilà, c'est les bourges que je cherchais. C'est tous un peu des bourges, quoi. Mais bon, ils habitent dans des squats, les murs sont délabrés, le monde court à sa perte. Mais t'as l'impression que ça, c'est le luxe. Je pense que le fait d'avoir tourné en Grèce aussi, où... Je pense que le symbole de la Grèce qui est tombé comme ça aussi à une époque en Europe là, et qui est devenu clairement plus qu'elle était avant, quoi. Je pense qu'il y a aussi cette volonté là aussi. Après, je pense que c'est pour les décors et tout, mais
oui, pour le crédit. Ouais, un peu les crédits d'impôt.
Crédit d'impôt, ouais.
Je suis d'accord avec toi. Il y a un côté un peu grandeur passée, mais juste même au-delà de ça, même en allant plus loin que la crise qui a frappé la Grèce, la crise contemporaine, mais la Grèce était quand même un symbole de la grandeur de l'humanité, de la civilisation à l'époque antique. C'est un pays qui est composé majoritairement de ruines, mais de belles ruines, je ne dis pas que c'est tout pourri, hein, mais des ruines historiques. Et après là, tu te trouves dans une ville qui est toute décrépite. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc un peu émouvant de les voir évoluer là-dedans, comme si toute la société humaine sur laquelle on se basait autrefois était là visuellement par la ville, par l'endroit où ils sont. On montrait à quel point elle était en train de s'effondrer, et que le fait qu'on reste juste dedans, dans cette espèce de monde où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus d'infection, où il y a des mouches partout, t'as des gens qui sont en train de se taillader désespérément pour avoir des sensations dans des ruelles et tout, je sais pas, il y a un truc un peu poésie macabre que j'ai trouvé assez beau, en fait. Et je sais pas, je trouve que c'est très punk comme film, mais c'est punk comme le cyberpunk était punk, sauf que là ce serait peut-être plus du biopunk, je sais pas, un truc du genre. C'est comment par l'évolution on peut s'échapper à l'establishment et à espèce d'oppression qui est incarnée un peu par le bureau des nouvelles mœurs, ou même la société qui fait les machines, etc. De sortir de ça, de s'en libérer pour accepter juste une nouvelle évolution entre guillemets naturelle, enfin telle qu'il nous le montre dans le film. Une manière d'échapper un peu à notre malédiction d'être des êtres qui polluent, d'être qui n'ont plus de sensations parce qu'on a été trop stimulés. J'ai l'impression que ça parle de ça, le film, au fond, quoi.
Mais ça parle de plein de choses, mais moi, vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est le rapport à l'art, c'est la réflexion sur l'art, c'est jusqu'où on peut imaginer l'art, parce que ça rejoint, je pense que vous saurez mieux en parler que moi, parce que Cronenberg, vous connaissez mieux que moi, tu vois, mais ça rejoint la grande thématique de Cronenberg, quoi, qui est simplement le body horror combiné au body art. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un mec qui est capable de faire pousser des organes qui n'existent pas et ensuite de les foutre dans des bocaux et de les exposer, quoi. Je trouve, rien que l'idée, je la trouve, elle est certes très glauque, mais je la trouve trop intéressante. Parce que oui, pourquoi pas, et de se dire on peut tatouer des organes et tout. Il n'y a que lui qui peut penser à ce genre de choses, tu vois. Mais je veux dire, du coup, imaginer l'art sous cette idée-là, je sais pas, moi je trouve que déjà c'est artistique en soi, dans la conception des accessoires, des matériaux, des décors, dans le rétrofuturisme qui va avec, parce que c'est vrai que du coup il a banni toute technologie et toute arme, parce qu'il n'y a pas de flingue, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. Les mecs ils se font tuer à grands coups de perceuse, enfin bon, bref, tu vois, c'est... Du coup, il a renié ça pour pouvoir se concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui est organique. Et j'ai trop aimé cette idée d'aller à la recherche même de l'essence même de ce que pourrait être l'art à un certain moment de l'humanité où le désespoir court les rues. Et ça m'a fait penser un peu à un épisode de Love, Death, Robots, qui est mon épisode préféré de la saison 1, qui s'appelle Zima Blue.
Ah, incroyable.
Où c'est l'histoire d'un mec qui fait des œuvres autour du bleu. Et donc, on a fait plusieurs. Et à force d'avoir fait trop d'œuvres, au bout d'un moment, il est un peu lassé de son art. Et pour lui, l'ultime essence est de revenir même à ce qu'il était au départ. Parce que c'est une personne.
Spoiler.
Oui, j'en dirai pas plus, mais je veux dire, c'est pas un humain, en fait. De revenir à ce qu'il était au départ et de partir comme ça dans une flambée artistique.
Monochrome bleu. Ouais.
Et de montrer qu'en fait, l'art est vain à arriver. Une fois que tu as touché le firmament artistique, ça en est là. Et en fait, c'est la recherche, la quête de toute cette personne-là. Et je sais pas, il y a tout ce désir. J'ai trop aimé ce désir de pureté et en même temps de pureté dans le sale.
De radicalité, en fait. Ouais, je pense qu'il questionne ça aussi, la radicalité.
La radicalité, ouais. C'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu et j'ai adoré cette réflexion sur l'art. Et c'est ce que j'aurais aimé voir dans la BA et ça m'aurait plus poussé. Et je suis très content du coup d'avoir vu ce film. Et je trouvais ça super intéressant parce que j'aime bien quand on réfléchit à ce que pourrait être l'art dans le futur. Et là, c'est franchement vraiment surprenant de voir qu'on ait pu imaginer ça. Alors... son cerveau, il doit être complètement fou à Cronenberg, mais c'était intéressant. Après, faut adhérer avec ce côté un peu geeker, ce côté un peu organique qui peut peut-être en rebuter plus d'un, peut-être les plus sensibles, tu vois. C'est ça aussi. Et vous,
je veux bien y aller parce que je suis pas du tout d'accord avec ce que j'entends. Enfin, c'est pas qu'elle est d'accord ou pas, c'est que c'est subjectif. En fait, c'est que vous avez ressenti ça. Franchement, j'aurais adoré recevoir le film comme vous parce que moi, j'ai pas du tout trouvé le film profond.
Non, mais attention. Après, j'ai pas non plus chialé devant le film. Hein.
Non, mais même tu vois, au-delà du fait qu'il y ait pas d'émotion, bon, ça,
j'ai pas ressenti d'émotion.
Pourquoi pas, tu vois, moi, j'en avais eu beaucoup plus devant Faux-Semblant ou History of Violence ou même La Mouche, qui à la limite est plus rebutant, ce qui est une émotion. Là, le film a juste laissé deux marbres. C'est-à-dire que j'ai traversé le film alors que j'étais prêt à y aller en l'aimant et tout. Franchement, je l'attendais beaucoup. Et dès la première scène jusqu'à la fin, j'ai traversé le film vraiment en mode OSEF. Et les questionnements que vous avez eus, je les ai pas du tout ressentis. Pour moi, sur la Grèce, c'est de la branlette. Je suis désolé. Là, il fait rien avec la Grèce. C'est pas filmé. Il montre pas la ville. Moi, la déliquescence de la civilisation et tout, j'ai pas du tout ressenti ça. Il filme pas du tout dans des ruines. C'est un espèce d'environnement en studio très lisse, très technologisé et tout. J'ai pas du tout ressenti l'impact de la Grèce sur le film, à part au générique où tu vois plein de noms grecs. Tu te fais, ah bon, ok, ils ont tourné en Grèce. À part ça, franchement, ça m'a pas du tout.
Ça sert même pas l'histoire.
Ça, pour moi, c'est pas du tout traité par Cronenberg, tu vois. Mais du coup, je trouve que l'univers qu'il pose, il est intéressant. Le postulat de base, les gens sentent plus la douleur, donc sont obligés de s'opérer et tout. Ok, je trouve que ça fait une bonne amorce, un bon court-métrage, quelque chose d'intéressant à développer, mais je trouve qu'il développe pas du tout ça dans le film. Moi, par exemple, le bureau des organes, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est un truc ultra administratif. Ils sont deux dans une pièce, ils répertorient les organes. Bon, so what ? Enfin, tout le film, j'étais là en mode, so what ? Tu veux m'amener où avec ça ? Quelle va être la conclusion de ça ? Moi, j'attendais beaucoup plus de scènes de chirurgie. C'est un film sur ça. Il y en a deux au final, quoi. L'autopsie à la fin et il y en a une au début du film pour te faire comprendre c'est quoi leur performance et tout. Moi ça m'intéresse beaucoup, je trouve que le postulat de départ encore une fois est très bon. Ce qu'il en fait, franchement, je trouve que c'est assez vain. Et même la réflexion sur l'art, bah, j'attendais beaucoup plus aussi, c'est-à-dire à quel point un artiste doit donner de lui-même pour créer une œuvre intéressante et tout. Et ben bah, au final c'est pas exploité, je trouve. Ok, bon, il se fait couper des organes, il les conserve dans un pot, bon, et donc
Bah, il est mal là, aussi.
Qu'est-ce
après,
que... Hein, il en souffre. Enfin, on sait même pas parce qu'il n'y a pas de douleur, mais il a l'air d'en souffrir lui physiquement.
Lui, il a l'air de souffrir.
Le personnage de Cédou, je comprends pas. Et moi, il y a même un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'ai vraiment vu un parallèle entre Viggo Mortensen et Cronenberg pendant tout le film. Déjà, je trouve que physiquement, il y a des scènes où ils se ressemblent. C'est
aussi,
assez
ouais.
troublant. Et du coup, je trouve que le côté un peu Pygmalion qu'il a sur Léa Seydoux et Kristen Stewart en mode j'ai 80 ans, mais il y a des meufs de 20 ans qui sont folles de moi, moi, ça me gêne beaucoup. Enfin, voilà, il y a un truc un peu male gaze, je trouve, dans le film. Je comprends pas les scènes de nudité, par exemple, alors que ça me gêne pas du tout dans Faux-Semblant ou dans d'autres films qu'il a fait. Mais là, pour moi, je vais être un peu cru, mais il la met à poil pour la mettre à poil. Ça raconte rien sur eux. On sent pas qu'ils s'aiment ou qu'ils ont une relation particulièrement fusionnelle ou quoi. Pour moi, la nudité apporte rien au film. Et la nudité, je l'attendais plus sur les scènes de chirurgie ou vraiment d'opération et tout. La seule scène de sexe qui est un peu intéressante, du coup, je trouve, bah, c'est le boyau lingus, entre guillemets. Il coupe tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'elle commence à lui faire ça, bah, il coupe. Donc, je comprends pas où ils vont en venir. Et ça me laisse vraiment de marbre, et franchement j'aurais bien aimé voir toute cette profondeur dans le film que je n'ai pas du tout ressenti, quoi.
Mais je suis pas d'accord pour les scènes de nu, on les voit nues seulement quand elles utilisent la machine, hein. C'est une machine qu'ils utilisent.
Bah non, il y a une scène où elle est assez douce, elle est nue avec Viggo Mortensen, ils sont dans le lit entre guillemets, et mais rien. Ils sont...
Ah non, c'est la machine, elle est dans la machine, elle est dans la machine, la machine s'utilise nue.
Oui, et puis même c'est hyper en fait tu sais qu'ils sentent rien et tu sais que c'est l'idée de se couper qui les excite, donc tout le moment là est pour, en fait c'est important qu'ils soient nus pour montrer qu'ils coupe et le sang qui coule sur eux, le fait que c'est quand même, ils se font du mal visuellement, mais qu'en fait ils ne le sentent pas, mais qu'ils le ressentent en termes d'excitation.
Moi je trouve que c'est pas du tout sulfureux comme dans Faux-Semblant, où il n'y a pas du tout ce côté où tu ressens l'excitation des personnages, enfin je sais pas, c'est un problème de jeu, mais je trouve qu'il n'y a rien entre Léa Seydoux et lui.
Alors,
quoi.
Ça,
y a pas d'alchimie.
Je suis pas d'accord, je trouve qu'on les sent très très proches l'un de l'autre, et par rapport à ce que tu disais, par rapport à son âge à elle par exemple pour son personnage, bah tu vois, ce qui est pas anodin, c'est que de base il imaginait une actrice plus âgée pour le rôle de Caprice, et que c'est elle en tant qu'actrice qui lui a proposé de le faire, donc je pense que quelque part ça a évolué un peu malgré lui, le fait que ça soit une femme si jeune qui prenne le rôle.
Kristen Stewart aussi.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le personnage de Caprice, c'est que pour moi, quand tu prends le film sous l'angle de l'art et Viggo Mortensen en tant que David Cronenberg, bah Caprice, elle me fait beaucoup penser à sa femme Denise Cronenberg qui est partie et qui était quand même avec lui sur tous ses films et qui était toujours auprès de lui. Ils étaient un vrai duo, tu vois. Et là, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans le duo d'artistes ensemble, inséparables, qui se comprennent et qui évoluent ensemble. C'est-à-dire que quand même, à la fin, c'est elle qui est avec lui pour l'accompagner, lui proposer de manger du plastique et passer à autre chose. Et tu vois, quand c'est elle qui prend du plaisir à se couper, et ben, il la comprend aussi et il le partage. Donc je trouve que c'est assez beau, ça.
Et le fait qu'il mange du plastique à la fin et qu'il ait une sorte d'extase, ça raconte quoi, du coup, si c'est un film écolo ? Enfin,
ça raconte
j'ai du mal
le fait
à...
que lui, il est en fait en évolution, comme le gamin était un être évolué, sauf que lui, il s'est toujours empêché d'évoluer en faisant des ablations régulières de ses organes et en étant avec, entre guillemets, l'establishment, avec le bureau des nouvelles mœurs, quoi. Et une fois qu'il a accepté d'être ce qu'il est, de plus s'amputer, quoi, bah en fait il a une épiphanie, quoi, il a une révélation.
Oui, puis ça remet en perspective le côté radical de ses performances qu'il pensait être radical, mais qui en fait on s'en rend compte sont assez convenues parce que plein d'autres le font avec plus de public. Ça, c'est très côté blockbuster de films face à des films à la Cronenberg. Enfin, moi je vois vraiment le parallèle avec l'industrie du film, en fait. Et du coup il pensait être très radical, et en vérité bah, il se rend compte qu'on lui propose de participer à un prix avec ses organes et tout, ouais, et tout ça c'est hyper convenu, tu vois. Ils le disent à un moment dans le film, ils disent en fait c'est pas si politique et ouf que ça, ces performances,
ouais,
artistiques.
Mais tu vois,
quoi,
la sous-intrigue du concours de beauté, ça va où?
Oui, mais c'est juste pour montrer que lui, en tant que personnage, au départ, il pense aller plus loin en faisant ça avec eux, et en vérité, il en revient. Il comprend que non, c'est pas tant un truc de ouf que ça. Et par contre, il comprend de mieux en mieux le père du gamin, et lui s'ouvre à ça, à cet activisme-là et à cette évolution.
Et là, William, il en pense quoi? Parce que tu nous écoutes tout à l'heure.
Bah ouais, mais je trouve ça assez intéressant. Bah, moi, l'avantage, c'est que je me trouve un peu entre les deux positions, parce que j'ai plutôt aimé le film, mais un peu sans plus. Je suis assez d'accord avec plus ou moins tout ce que vous avez dit, mais en poussant les curseurs un peu moins loin. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a beaucoup de surinterprétation de la part de la team Enjaillé, puisque moi, je suis assez d'accord avec Clément sur beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a... Par exemple, le truc de la Grèce, là, c'est clairement vous qui le projetez. Parce
c'est une
que...
idée.
Oui,
c'est
non, mais
idée.
Je sais bien. Je suis assez d'accord avec ça, puisque, en effet,
c'est juste ça a coûté moins cher aussi après.
Ouais, hein, non, mais peut-être. Et puis même, enfin, vraiment, moi, j'avais même pas remarqué les écritures grecques. Donc, tu vois, pour moi, ils étaient à un endroit genre qui était non situé, par exemple, pour moi, tu vois.
Et donc, est-ce que la déliquescence de la société, moi, est-ce que ça apporte quelque chose le fait que la société soit, par exemple, totalement en perdition là-dedans, puisque tu vois que tous les murs sont délabrés, qu'ils font plus attention. Est-ce que ça apporte quelque chose dans l'histoire? Je suis pas sûr. Est-ce que s'ils avaient fait ça, par exemple, dans un Paris, tout
ça n'apporte rien. Après, c'est...
Oui, mais en fait, la question,
c'est nous qui avons remarqué ça.
Oui,
c'est
bien sûr.
Que
non, mais c'est...
En aucun cas, c'est mentionné.
Tu sais, bien sûr. En fait, c'est là où je veux en venir, c'est que je suis pas sûr qu'une idée, si elle n'apporte pas quelque chose à l'histoire, soit vraiment qu'on puisse vraiment la pointer du doigt autant. Non, moi, par exemple, s'il avait fait la même histoire dans un Paris contemporain, avec juste des gens qui, pareil, ne ressentent plus la douleur et ne peuvent plus avoir d'infection, mais dans un Paris tout propre ou très actuel, je veux dire, il aurait pu raconter exactement la même histoire. Et du coup, pour moi,
je suis pas d'accord.
C'est un peu de la surinterprétation qui me dérange pas du tout, mais que je ne vois pas du... Enfin, que moi, je n'ai pas du tout...
Pour moi, le décor représente aussi leur corps qu'ils laissent à l'abandon. Parce que comme ils le disent à un moment, c'est des tumeurs qui se développent et les mecs, en fait, ils ont perdu espoir. Ils s'en foutent, en fait. Ils ressentent plus rien. Donc, à partir du moment où tu ressens plus rien, tu vas à la recherche de ça. Tu vas à la recherche de l'émotion. Ils essayent en vain. Et en fait, moi, pour moi, c'est ça la définition de l'art. La définition de l'art, c'est la recherche de la vérité, en fait.
Et la vérité est le corps.
Et la vérité est ailleurs, rappelle-toi.
Pour lui, c'est le corps. Donc pour lui, ça répond à son art à lui. Mais pour moi, c'est ça la recherche de l'art. Quand tu fais de l'art, peu importe de quelle manière, peu importe si tu fais de la musique, de la peinture, de la poésie, peu importe, c'est que tu vas à la recherche d'une certaine vérité que toi, on est tous en quête de quelque chose en tant qu'artiste. Tu vois.
À la rigueur, tu vas à la recherche de ta vision de la société à l'instant T, si tu veux, mais... vérité, je trouve ça.
Ça m'a rappelé à certains moments ce film Perfect Sense, je sais pas si vous voyez ce que c'est,
oui.
Où les mecs perdent un à un leur sens.
Leur sens.
Donc, la vue, le goût, etc. Et donc, du coup, ils sont. Certains personnages dans le film sont aussi à la recherche à chaque fois de voir se réinventer et réinventer artistiquement comment on peut faire à chaque perte de sens, comment on peut réinventer l'art. Et j'ai l'impression qu'il est sur cette note d'intention-là.
Après, donc, voilà, moi je trouve qu'il y a.
Pour moi, le décor peut-être montre ça aussi.
Le film, du coup, je trouve parfois le film. Un petit peu ridicule sur certains trucs. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui me plaisent beaucoup dans le film, notamment tout autour de ce qu'est que la tumeur. Est-ce que les organes, du coup, sont des tumeurs organisées? Vu que normalement, une tumeur, c'est plutôt un amas de cellules non organisées. Enfin, je trouve qu'il y a des réflexions qui sont plutôt cool. Mais dans l'ensemble, toutes les réflexions sur l'art, je les ai trouvées un petit peu branlettes, personnellement.
Pareil.
Par exemple, le discours, il y a un moment, Léa Seydoux fait un monologue sur l'art à la fin, dans le dernier tiers. Ça, pour moi, c'est vraiment très mal écrit, par exemple. Et vraiment, ça me touche à zéro moment. J'ai aucune compréhension de ce truc-là. Je suis vraiment passé totalement. Alors, c'est peut-être moi qui passe totalement à côté, attention. Hein. Je suis sûrement un peu idiot aussi. Hein. C'est pas le. Tu vois.
On n'a rien évoqué.
Mais.
Tu n'as pas de cœur, oui.
Non, mais je trouve vraiment que le film.
Mais surtout au moment où elle le fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est une autopsie d'un gamin. La meuf, elle est là, oui, mais l'art, machin. Je m'en fous, en fait.
Oui, mais là, est-ce qu'il n'est pas en train de montrer le côté performer qui se branle, en fait?
Ah ouais, mais alors, il parle de la vérité de l'art ou de la performance?
Non, mais au moment où elle dit ça, elle le dit pas à Vigo dans l'intimité en mode c'est moi qui pense ça, elle se donne un spectacle.
Il y a un jugement sur le personnage.
Après, nous, on a juste une interprétation.
Oui, bah du coup,
c'est pas ça le film.
Après, pour moi, tu vois, cette scène, pour moi, elle est en dilemme.
Du coup, je continue à vous donner mon interprétation vite fait. Comme ça, après, je vous laisse repartir dans vos idées. Mais moi, alors, le film, je vais vous dire plutôt ce qui m'a plu dedans, c'est que j'ai pas pu, comme Clément, m'empêcher de me dire ouais, j'ai l'impression de voir. Cronenberg en fait à l'écran, enfin vraiment même coupe de cheveux, les cheveux blancs, un peu le même genre de physique et du coup le mec à 79 ans, je me dis qu'en fait il nous parle de sa mort. Vraiment, je me suis dit ça pendant tout le film. Je me suis dit c'est sûrement juste un vieil homme qui commence un peu à perdre ses sens parce que quand tu vieillis, t'as un peu moins le goût, tu vois un peu moins bien, t'entends un peu moins bien, tu ressens peut-être un peu moins les choses. Il y a des gens qui ont plus de nociception, donc qui ont plus de douleur par exemple. Je me suis dit il nous parle de ça, il nous parle de lui et de sa vision de son corps. Ou de ce qu'il espérerait avoir pour son corps, et sûrement aussi un peu la peur de la mort, puisque je sais que toi, Kevin, tu m'as dit que tu l'avais pas du tout ressenti comme ça, mais pour moi, il y a tout un truc vachement biblique à la fin. Quand il mange le plastique, il a une espèce d'épiphanie, et puis à un moment, il nous parle de la croyance, et je sais pas, j'étais un petit peu déçu par si c'est ça la conclusion de son film, et c'est un peu ce que moi j'ai ressenti. Le côté, finalement, je me laisse aller à la croyance et plus du tout à mon intellectualisation de mon corps.
L'enfant martyr aussi.
Voilà, et puis voilà, et en fait, il y a plein d'images bibliques dans le film. Il y a l'enfant martyr, il y a le prophète à travers le père qui vient délivrer un message et qui lui arrive des trucs. Enfin, et il y a bien entendu la force contraignante qui empêche la délivrance de ce message. Donc voilà, pour moi, il y avait quelque chose de très biblique. Je trouve ça un petit peu dommage si c'est le message. C'est ma perception. Donc, voilà. Après, j'ai plutôt aimé le film. Il y a des choses qui m'ont fait qui m'ont plu, notamment la photo. Personnellement, je trouve que le film est très bien éclairé, c'est plutôt bien mis en scène. J'ai aimé les cadrages lents qui prennent leur temps, qui bougent pas, ce qui permet de voir tout le jeu d'acteur.
La musique.
La musique est géniale. Après, c'est je trouve clair. Qu'il y a quand même des énormes erreurs d'écriture sur certains personnages que je trouve fonction. Kristen Stewart, c'est un personnage fonction, c'est-à-dire que toutes les phrases qu'elle dit qui permettent de débloquer des choses dans l'intrigue, tu les fais dire par d'autres personnages. C'est pareil.
On la voit très peu aussi. Hein.
Oui.
Alors qu'elle est sur la fiche.
Ouais, moi,
en fait.
J'ai une vraie déception sur ce perso parce que c'est vrai qu'elle fait que expliquer des trucs, soit la loi, soit le contexte général du truc, et être en kiff sur Viggo Mortensen, et ça va un peu nulle part. Et la révélation qui tombe à la fin sur son perso, bah, moi, ça a fait pchit. C'est-à-dire que je m'en fous. Et après, je trouve que là où je te rejoins, c'est vraiment sur le personnage de Viggo Mortensen. Je trouve vraiment qu'il est très réussi, ce perso, et vraiment, j'aurais aimé. Plus de lui, plus en savoir plus sur lui, aller plus loin sur lui, et les personnages qui gravitent autour, pas beaucoup.
Le patron de Kristen Stewart, il a plusieurs scènes.
Il a plus de scènes qu'elle même.
Voilà, tu peux les enlever, ça mène pas grand chose. Il y a quand même plein de persos. Il y a deux nanas de la compagnie. C'est un peu pareil.
Elles sont super, les actrices.
Oui, non, mais je parle pas de leur.
Elles crèvent l'écran direct et je trouve que leur duo. Il y a un truc, c'est pas que elles, c'est l'écriture.
C'est pas tant là-dedans qu'elles. C'est juste. À quoi sert, tu vois ? Enfin, vraiment.
Moi, elles servent justement à montrer que quoi que tu fasses, il y a toujours un moment où la politique rejoint l'art, parce que l'art, c'est politique, en fait. Moi, je pense que j'ai vu le film comme ça. C'est-à-dire que même si tu es dans ton délire à toi, artiste, ce que tu fais a des répercussions politiques sur tout. Parce que pour moi, ma définition à moi personnelle, hein, prenez-la comme vous voulez, mais pour moi, l'art,
c'est politique.
Un film, peu importe, dès que tu fais quelque chose qui touche au domaine de l'art, c'est forcément politique.
Oui,
bien et sûr, tu ne peux pas faire autrement. Et moi, en fait, c'est ça pour moi. Pour moi, elle représente le fait que tu croyais être serein, et ben non, bim.
Ils
sont pas là pour rien.
Voilà,
tu vois,
dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont plu. Il y a des trucs que je trouve très maladroits. Je trouve que c'est vraiment pas le meilleur Cronenberg à mon goût. Hein. Je trouve qu'il s'est vachement mieux démerdé dans un truc comme Faux-semblant ou Existence, que j'avais trouvé beaucoup plus abouti en termes de réflexion. Après, il y a des choses qui m'ont fait rire. Moi, par exemple, un truc qui m'a fait exploser de rire dans le cinéma, quand vraiment ça m'a sauté aux yeux, c'est que bon, il y a le personnage de Viggo Mortensen, en fait, il a un double jeu, on va pas le révéler, mais littéralement, il est déguisé en ninja pendant tout le film. Donc moi, ça m'a fait rire.
À manche trop longue, en fait.
Donc forcément, j'explose de rire quand je me dis, ah ouais, en fait, c'est vraiment à prendre littéralement au premier degré. Le mec, c'est un ninja dans le film.
Ninja, c'est un senior site.
Oui, voilà, non, mais tu vois, enfin, c'est...
Donc, voilà, ensemble, il est caché dans l'ombre.
J'ai pas passé un mauvais moment. Je suis un petit peu déçu parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu branlette et parfois un petit peu maladroit. Et je trouve qu'il y a quand même des belles choses qui valent le coup. La musique, Howard Shore, assez belle. Ouais, la photo.
Elle est vraiment très très bien, la musique.
La mise en scène. Même Léa Seydoux, tu vois, moi j'aime pas beaucoup Léa Seydoux en tant que personne quand elle s'exprime dans des interviews. Et en tant qu'actrice, je trouve que cette année elle nous a livré plusieurs performances qui commencent à me rabibocher avec au moins son jeu d'actrice.
Ouais, ouais. Bah moi je suis d'accord avec toi. On l'aime pas un peu par principe, mais je trouve que c'est une bonne actrice.
Mais moi ce que j'aime bien avec ce film, c'est que voilà, c'est comme un tableau. Il y a plein d'éléments, ouais. Tu peux piocher un peu partout, il y a plein de choses à interpréter. Alors,
mais ce que tu disais, c'est que par exemple, l'art, c'est quelque chose de politique, c'est-à-dire que le message doit être délivré quand même avec une certaine clarté. À partir du moment où tu arrives dans un art où le réalisateur dit à son spectateur, bah, tu choisis un peu ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux, pour moi, c'est que c'est
un peu.
Pour moi, c'est comme Mother de Aronofsky.
Wow, ouais.
avant de réagir, à l'époque, quand on l'avait vu. On savait pas trop quoi en sortir, il y avait plein d'angles de lecture à la fois, on sentait que ça parlait d'art, que ça parlait de la planète possiblement, que ça parlait de l'intimité d'une femme, qu'il y avait plein de références bibliques que moi perso j'avais pas compris, mais voilà, il y avait ça aussi. Et je trouve que c'est, comme tu dis Romain, un tableau.
Ça décante, ouais.
Et pour moi je suis pas d'accord sur ce que tu dis William, je trouve que ce qui est intéressant avec Cronenberg, c'est que c'est un peu un philosophe en tant que réal, et que du coup ce qu'il fait bien, c'est qu'il t'explique au début de son film le contexte. Il y a un côté un peu explicatif de, ils le disent les persos, on est dans tel monde, on ne ressent plus la douleur, nanana.
Oui,
mais à partir de là, quand l'exposition est mise, eh ben, il ouvre des portes et il te laisse, toi, spectateur, réfléchir par toi-même et laisser infuser.
Ah ouais, mais je trouve que c'est un peu déconnecté et des personnages et de l'intrigue. Et du coup, bah... Qu'est-ce que
oui,
je fais
là,
est-ce que
c'est...
je suis l'histoire en fait, pour les personnages.
C'est théorique en fait.
Oui, c'est...
Pour moi, c'est pas incarné. C'est pas incarné.
Ah ouais, tu vois, bizarrement, moi, ça me dérange pas. C'est vrai que le film ne m'a procuré aucune émotion en ce qui concerne les personnages ou comment ils évoluent eux dans leur histoire. Par contre, derrière, moi, mon cerveau, il était en feu, quoi, parce que j'étais en mode ah ouais, ok, d'accord, tac, 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 tac. Il y a des films qui font ça, il y a des films, voilà. Il y en a, heureusement, ils réussissent à mélanger les deux. Et donc, dans ce cas-là, c'est réussi.
Quand je vais voir une œuvre d'art, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer l'idée de ne pas avoir d'émotion en regardant une.
Je ne dis pas que l'œuvre d'art en
elle-même est
du film. Je
ne
dis pas que l'œuvre est réussie au point que je t'ai dit, j'ai pas eu la catharsis. Pour moi, j'ai pas eu ça. Il y a des œuvres, il y a d'autres films
qui tombent beaucoup plus.
Cette même chose-là où j'ai plein de choses à piocher, j'ai plein de choses à analyser. Et encore, même aujourd'hui, 20 ans après les avoir vus, je suis encore en train d'analyser des choses. Et j'ai trouvé le film, quand je les ai vus, magnifique, jusqu'à en chialer parce que l'histoire en elle-même, voilà, l'œuvre elle-même cinématographique rend service à l'art et ensuite elle découle aussi de d'autres mouvements artistiques qui font que tu peux piocher là, t'as des torrents de choses, tu peux t'abreuver par-ci, par-là, tu vois, c'est magnifique. Là, pour le coup, c'est peut-être pas le cas de ce film, mais en tout cas, il y a des choses à dire, il y a des choses qui ressortent.
Après, moi, j'ai passé un bon
moment.
Après,
en parlant, peut-être on est déconnant sur la Grèce et tout, je me dis, tu vois,
c'est une interprétation.
Je trouve ça bien que vous ayez vu autant de choses.
J'aurais aimé le perso.
Parce que moi, voilà, j'aurais aimé le perçoir comme vous. Je l'ai ressenti avec beaucoup moins de négativité que Clément, mais avec quand même beaucoup moins d'optimisme que vous. Et clairement, non, mais pour te dire à quel point le film ne m'a pas marqué, c'est que là, quand je repense au film, bizarrement, je le vois en noir et blanc. Toi, c'est complètement con, mais.
C'est le dernier plan.
C'est le dernier plan.
Le dernier plan est en noir et blanc.
Ah, bah, tu vois, je m'en rappelle. Non, mais vraiment, toutes les scènes, même où toi, il discutait avec le flic et tout, je vois le film en noir et blanc. Toi, je vois pas de couleur, je vois pas de truc qui me saute aux yeux.
Après, c'est intéressant qu'on l'ait tous perçu un peu différemment, donc ça reste à voir, tu vois. Mais pour moi, c'est la différence entre un film dense, où il y a plusieurs niveaux de lecture, et un film fouillis. Pour moi, ce film, il est fouillis. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre, ah tiens, si je parlais de ça, et il y a ça aussi et tout. Et tout y est, mais pour moi, ça forme pas quelque chose de cohérent en termes de scénario et de personnage où je me dis, ah tiens, faut que je le revoie parce que ce niveau de lecture là, il m'a échappé. Non, j'ai une impression un peu de vacuité à la fin qui me dérange venant de lui, quoi, parce qu'il a quand même fait, je sais pas, 30 films, je sais plus combien, c'est pas un débutant, et je me dis, bon, c'est ni assez expérimental pour que je me laisse complètement porter par les images du film, ni assez narratif pour que ça m'intéresse. Donc voilà, ça se situe dans un truc qui m'emmerde un peu.
Mais je vois ce que tu veux dire, mais en soi, ça ressemble, je trouve, quand même pas mal à des films comme Vidéodrome ou des films. Enfin, c'est vraiment ces films, on va dire que ces films concept, ces films vraiment philosophiques, le film de la prémisse, quoi, où il parle d'une prémisse philosophique en mode. Crash. Oui, même Crash.
Non, mais je les ai pas vus.
C'est. Imaginons, c'est ça. Allez hop, on imagine ce que ça pourrait donner, à vous de vous faire votre avis, de réfléchir, de vous imprégner de ce possible. Pour moi, il rentre dans cette.
Ouais, en fait, il y a peut-être deux types de Cronenberg, on pourrait conclure comme ça. Et je suis d'accord avec vous qu'en termes d'histoire et d'émotion, c'est pas du tout son meilleur. Et que d'autres, comme Faux Semblant, là où ils sont très forts, c'est qu'à la fois il y a de la réflexion et en plus il y a une histoire qui te prend émotionnellement. Là, on est plus dans de la théorie. Et c'est vrai que ce que dit Kevin, c'est que Crash était comme ça, assez hermétique et assez dans la réflexion sans que tu comprennes trop l'histoire. Vidéodrome, on l'a revu là il y a quelques jours, c'est exactement ça aussi.
Alors, est-ce qu'il n'aurait pas gagné à peut-être faire un film avec un peu moins de personnages pour cibler 2-3 idées bien spécifiques étayer autour de ça ? Parce que là, du coup, c'est vrai qu'il aborde plein de sujets différents à travers plein de personnages différents, mais sans avoir le temps de tout développer ou tout conclure. Tout.
Après, il a peut-être peur de mourir avant de avoir tout dit aussi. Hein. Non, mais c'est le premier degré.
Ils sont trop sur un film et déjà en route, là, il y a Vincent Cassel.
C'est pour ça, tu vois, il se dépêche.
Mais moi aussi, j'ai vu ce film comme une vengeance.
Allez quand même voir le film, ça
faut le voir.
J'ai vu ce film un peu comme une vengeance
à analyser, je trouve.
D'une épreuve, d'un sujet d'art plastique. Un peu comme une vengeance d'un sujet d'art plastique quand j'étais au lycée, où j'avais imaginé un monde pareil, futuriste, où en fait, avec les condamnés à mort et tout, qu'on sacrifiait, on peignait des œuvres d'art avec leur sang et tout. Enfin, moi, j'étais parti dans un délire et
c'est
tout. Et ma prof, à l'époque, elle avait pété un câble en disant on ne tue pas les gens pour l'art et tout, machin. Moi, j'étais en mode mais ça va, c'est dans ma tête et tout, je vais tuer personne en fait. Mais non, et j'ai eu zéro.
Pose ce couteau en
main. T'as eu zéro ?
J'ai eu zéro. Et du coup, un peu quand j'ai vu ce film, j'ai fait voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, voilà, Madame Jardigon, eh oui.
Ah là là, c'est le blast. Il a lâché le
blast.
Madame Jardigon, si
elle
vous écoutez.
Zéro. M'a eu zéro alors que j'ai eu 20. Hein. Enfin, j'étais chanchouchou et tout, mais par contre là, je l'avais déçu quoi. Elle fait, tu me déçois, tu étais mal.
Tu as tué des gens.
Mais bon,
elle a appelé la police et tout, c'est parti.
Mais après, voilà, belle découverte Cronenberg. J'étais pas à part La Mouche, mais vraiment, on est plus sur le côté body horror que body art.
La Mouche, un de ses plus émotions, je trouve.
Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce que ça t'a donné envie d'en voir d'autres de lui?
Ouais, carrément.
Parce que ça peut être aussi un aspect, peu la porte d'entrée.
Parce que si c'est ce genre de mec qui se donne des réflexions en disant, ah tiens, si je pars de là et si je m'aménise, c'est un peu comme moi quand je faisais avec mon art et que j'ai imaginé mon musée là, bizarre là.
Ouais.
Où tu te donnes un postulat en disant, voilà, je me fixe ça et à partir de là je fais évoluer, bah là c'est pareil, c'est dit alors imaginons un monde sans douleur où bam, comment serait l'art dans ce monde là moi j'adore ça, s'il a que des visions comme ça dans ses films, donnez moi les DVD hein.
Dans les films de ce type là, mais il a plusieurs types de ciné.
Je te conseille Faux Semblant et Chromosome 3 que j'ai revu aussi et qui est très bien sur la psychologie et comment on extériorise en tumeur la colère qu'on a en soi.
Et si tu veux en voir un pas bien, tu regardes Spider.
Oh, c'est pas bien.
Non, mais je suis très content parce que ça partait mal, hein. Franchement.
J'ai pas aimé.
Commence avec l'histoire d'un gosse qui bouffe une corbeille en plastique. J'ai fait, où est-ce que je suis en fait.
En vrai, j'ai vu la première scène, je me suis dit, on va être. Je regardais Clémence du coin de l'œil, je me suis dit, on va être les seuls à aimer ce film.
Mais moi, j'aime bien la première scène. Tu vois.
J'ai eu peur, je me suis dit, ils vont voir un mec qui mange une poubelle. Ça y est.
Et au final, juste ce qui est choquant et ce pourquoi ils pensaient que les gens allaient sortir, c'est principalement lié aux gamins en fait. C'est pas du gore.
Oui, c'est ça.
C'est pas de l'insoutenable.
Ils ont mal vendu le film.
C'est un petit peu naïf de sa part, il y a quand même eu des scènes avec des gamins bien plus.
Ah non, non.
Dans des films même bien plus.
Oui, mais de pour
moi,
lui,
je pense
non.
que quand même, il brise un peu un tabou en faisant ça en scène d'ouverture. Wow. Et aussi, quand ça revient plus tard avec l'idée de l'autopsie, je trouve que c'est chaud.
Ça, c'est pas pareil.
Ouais, je comprends. Oui. Après, je pense que comme d'hab, c'est le marketing qui a un peu instrumentalisé ses propos en disant on va dire qu'il sait pas ce qu'il y a du temps.
Mais c'est lui aussi, parce qu'il a quand même dit oui, il y a des gens qui vont s'évanouir et tout. Ah, frère, t'as vu Irréversible ou
Void.
Tu vois, tout noué quoi.
Je pense
quand un martyr qui sort au cinéma et qu'on dit bah il y a des gens qui sont sortis de la salle.
Sans mal, c'est nul à chier.
Ouais, sauf que en termes de oui,
c'est pas vrai, c'est bien martyr.
Bah ouais, mais déjà j'ai bien aimé le film et en plus surtout en termes de toi de radicalité dans les images, ça va beaucoup plus loin.
Même Mozart,
Si on avait été parents autour de la table, peut-être qu'on parlait pas comme ça, tu vois.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même un truc différent de voir de la viande froide de gamin ouverte quoi que de voir une meuf qui se fait dépecer pour voir Dieu quoi. Spoiler. Désolé.
Ah, ça fait parler. Hein,
ça fait parler.
Ça
et
spoil,
voilà,
hein.
Et c'est un des mérites du film. Il nous fait
oui,
parler.
Clairement.
Parlons de Dora l'exploratrice.
Il y a plein de choses. Voilà, évidemment.
Douille ou pas douille, bah douille.
Non, mais après, c'est soumis à la sensibilité de chacun, au goût et aux couleurs. Hein, vous connaissez le dicton. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses à dire. C'est pas un match retour qu'on a évacué comme ça d'un geste de la main.
Ah non, on pouvait pas.
Cronenberg, Les Crimes du Futur, est-ce qu'on conseille quand même d'aller voir?
Oui, faites-vous votre avis.
Ouais, faites-vous votre avis, ça reste quand même quelque chose à voir. Alors,
manger des
ça
poubelles.
Reste space, attention, hein, c'est pas comme si c'était
c'est pas
tout
public. C'est pas familial. Ouais.
Ça reste un univers très space.
Ou alors vous avez une famille chelou.
Bah non, nous à la maison, la table est comme ça, je dors sur un lit pareil.
Ouais, parce qu'il a fait des films que tu peux voir, enfin tu vois, Dangerous Method.
Ouais,
ou,
toute sa période. Ouais,
Dangerous Method, je mets pas mes gosses devant. Hein.
Cosmopolis, tu peux le regarder.
Non, en fait, en les revoyant, je me rends compte qu'ils sont tous assez.
Oui,
c'est creepy,
quand même des sévices
très
adultes. Dans Dangerous Method, je le mettrai pas devant.
Il a fait un film d'amour, là, je crois, Mr. Butterfly, non?
Ouais, mais j'ai pas vu, tu vois.
Qui a l'air d'être vraiment un film romantique. Bon, ça m'intrigue.
C'était ses débuts, ça, il était un peu innocent.
L'amour entre un papillon et une chenille. C'est beau.
Une histoire de pédophile, donc.
Ça nous a fait parler.
Oui.
Et même si on n'avait pas une limite de temps, on pourrait encore en parler plus longtemps. Hein, mais...
On a une limite de temps ?
Il faut laisser un peu de place à la presse.
Oh, c'est vrai, putain.
La presse.
Toi, tu t'es prêté à dire au revoir. Et maintenant, on a encore une petite revue de presse avant de se quitter.
Oui, mais quand il dit...
La revue de presse.
Kevin. Oui. La presse. Alors qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle noté? Je vous dis tout. C'est la revue de presse. C'est parti. C'est maintenant. Alors, Rotten Tomatoes 81%. C'est très bien noté.
Putain.
Très bien noté.
Ah,
Metacritic 69%. C'est moins bien noté. Mais en même temps, Metacritic sont toujours
Metacritic,
un peu plus.
C'est pas mal quand même.
Oui, mais toujours un peu plus sévère que nos d'habitude. Et Allociné, c'est pas mal. On est à 3,6 sur 5 au moment où j'ai fait la revue de presse. Ça peut évoluer, vous le savez.
Putain, je suis surpris, tu vois,
Mais néanmoins, vous allez voir, il y a des gens qu'on peut aimer quand même, hein, je les ai sélectionnés. Mais j'ai commencé, comme d'habitude, par ceux qui ont aimé. C'est par ceux qui ont aimé, notamment L'Écran Fantastique qui nous dit « Complexe, maîtrisé et servi par une interprétation sans faille, ce 22e opus respire l'esprit de son auteur jusqu'à la moelle, pour le plus grand plaisir de tous les cinéphiles incontournables. » Ils sont suivis par les Cahiers du Cinéma. Pourquoi la chirurgie du docteur Cronenberg opère-t-elle toujours? Parce que sa science-fiction n'a jamais cédé aux rêveries futuristes, ni joué au jeu des prophéties. Elle est restée arrimée à la seule chose qui l'intéresse vraiment, le corps humain et son devenir, le corps comme principal terrain de l'esprit et seul lieu possible d'une transcendance.
Ça, j'avoue, je suis d'accord, c'est l'œuvre de sa vie carrément. Et il a ce style particulier, et je trouve que ça rend totalement sens, enfin ça rend honneur à son film, c'est le fait qu'il est, je l'ai dit déjà, mais qu'il est dit non au futurisme, quoi, c'est niet. Et ça, je trouve que ça marche trop bien, parce que c'est vrai que tu rajoutes dans tout ça des bzz, 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 des écrans et tout, en mode des casques VR et tout, tu perds tout en fait.
C'est sa patte.
Tu perds l'âme.
Il n'y avait pas le budget. Banda.
Tellement tarateur ce que tu viens de dire.
Et c'est peut-être ça. Non mais tu rigoles, mais
ça
au début
trouve.
Il a commencé sans budget.
Ça se trouve,
il s'est dit, attends, moi,
je trouve tout le cinéma
ça.
De Cronenberg, c'est qu'il a pas de budget. Bande à part, il nous avait manqué cela. Bande à part, Cream of the Future. Ils le disent en anglais parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre.
Ils sont à part.
Cream of the Future se singularise par une mise en scène d'une sophistication extrême et d'une photographie que le chef opérateur Douglas Corr rend sublime. Et attention, là maintenant, vous allez voir pourquoi. Bande à part, ça s'appelle Bande à part.
Parce qu'il y a un mec qui a fait une autre critique, mais négative.
Le corps nu.
Il a fait un calcul.
Le corps nu de Léa Seydoux, attraction érotique de Crime du futur, est un corps d'odalisque qui se serait échappé du tableau d'Ingres. Un corps parfait.
Mais pourquoi ?
Tout ce que je redoutais, c'est...
D'une pure et stupéfiante beauté, irradiant de désir et de vibration que le cinéaste filme avec une attention d'esthète, une dévotion de peintre.
Ça, vraiment, ça me saoule.
Léa Seydoux n'est pas la proie du regard. Elle est une attraction mystérieuse, magnétique et insaisissable. Elle fait exister une chose nouvelle chez Cronenberg. La chair, la volupté, l'harmonie... Une infinie douceur.
Non mais attends, Clément, tu peux être énervé, mais je trouve que ça en dit plus long sur les gens qui regardent.
Mais après, c'est le seul truc, c'est le seul, c'est la seule critique comme ça que j'ai, c'est Bande à part, et je vous l'ai dit, on sait pourquoi ça s'appelle Bande à part.
Ce sont des obsédés.
Ce sont des obsédés du sexe.
Elle est trop bonne, c'est doux, il l'a fait.
J'adorais la scène où on voit ses tétés.
Voilà, là. Franchement, c'est ce que je retiens du film, quoi.
Possible. Clément, c'est parce que tu te sens coupable. Toi aussi, t'as été excité.
Non, mais alors, non seulement pas du tout, mais ce plan, il m'a dérangé. Quoi.
Ah, mais je pense que le mec qui a écrit ça, déjà, il doit avoir 69 ans et il y a du sopalin autour de son clavier. Hein. C'est sûr.
Et c'est vrai qu'en fait, Bande à part, ça sonne un peu boomer. Ça doit être des
bah,
vieux...
Oui. Bah, Bande à part, c'est le film de Jean-Luc.
Ils ont pris
Jean-Luc,
le mot bande un peu au premier degré, je pense.
Ouais, c'est ça.
Le film de Jean-Luc.
Ils bandent vraiment, quoi.
Et la maison de prod de Tarantino.
Ouais, mais...
En référence à Jean-Luc.
Ouais, je pense que c'est des gros boomers. Ça se trouve.
Mais c'est sûr.
On les aime bien quand même, ça permet d'avoir ces petits moments comme ça au-dessus du temps dans la revue de presse.
Je finis avec les gens qui ont bien aimé avec Écran large.
Qui n'ont pas aimé.
Non, je finis avec ceux qui ont bien aimé.
Et après, il y a encore une demi-heure.
Et après, il y a deux heures de gens qui n'ont pas aimé. Écran large, les crimes du futur via son concept est un retour radical au body horror genre que Cronenberg semblait avoir abandonné depuis Spider en 2002. Et il en profite pour compiler puis hybrider toutes ses obsessions non sans philosopher au passage sur la pertinence de ce cinéma-là dans un monde transformé. Rien de surprenant de la part de celui qui a mis en scène sa propre mort ou presque dans le court-métrage The Death of David Cronenberg. David Cronenberg dissèque sa carrière, l'industrie dans laquelle il évolue depuis des décennies et la puissance de l'avant-garde artistique. L'exercice est forcément fascinant, encore plus pour les connaisseurs de son œuvre.
Mmh. Ouais.
C'est vrai.
Non, mais c'est un véritable artiste, ça ne peut rien dire.
Ah oui, pour ça, c'est sûr.
Moi, je le relis un peu à David Lynch, bêtement, parce que c'est des mecs qui, depuis leur premier film, ne sont jamais sortis de leur ligne artistique. Quoi. C'est...
Ouais, philosophiquement, je trouve qu'il y a une petite... Ouais, une familiarité, quoi. Télérama. Bah, Télérama, ils ont pas aimé, Télérama. Ils ont pas aimé le film.
Ça m'étonne.
Cette fiction dont le corps et le centre ne prend jamais cher.
Wow.
C'est Clément qui a écrit. Les plans défilent comme des tableaux d'une exposition, la caméra aussi stoïque qu'un clou planté dans le mur. Et quel est ce futur inconsistant où des créateurs-performeurs évoluent dans des décors sommaires, hein?
Où sont les voitures volantes?
Ça, c'est un peu con, par contre, de dire ça.
Eh oui, il n'y a pas de voiture qui vole. C'est ça le futur ? Non, merci. Il n'y a pas de voiture. C'est vrai qu'on ne voit pas aucune voiture, ils se déplacent tous à pied.
Mais non, la mer, c'est Hidalgo. Il n'y a pas de voiture.
Hidalgos.
Vigo Mortensen, c'est Yamakasi, il saute sur les toits, il fait du parcours.
Il a la tenue, mec. Il est un ninja, il peut courir.
Il y a un moment, il est dans un coin, il est trop en mode Batman en train de regarder.
Oui,
je suis
et il se met toujours accroupi aussi.
J'ai cru qu'il avait parlé de l'homme mystère.
J'ai trop pensé à Assassin's Creed.
Vous n'êtes pas demandé pourquoi, à chaque fois qu'il parle avec son pote flic, là, ils se mettent accroupis tous les deux?
Je sais pas. J'ai pas réussi à interpréter cet accroupissement.
Ils ont tous les deux mal au ventre. C'est à force de manger
peut-être
sur leur chaise.
Parce que leur corps croupit.
Oh.
Oh.
Oh, une autre critique.
LCI. Bavard, les crimes du futur donnent aussi le sentiment que David Cronenberg régurgite ses vieilles obsessions dans une forme d'auto-célébration un peu vaine. Les fans hardcore y verront une œuvre testamentaire savoureuse et les autres ont le droit de sortir de table.
Je suis assez d'accord.
Ouh, le chant lexical ouais. De manger.
Du repas.
Du repas. On a le droit de déglutir le film.
Wow. Quelle métaphore filée, n'est-ce
wow,
pas
aussi.
Je finis avec Criticat, le journal des chats.
Il n'y a pas d'animaux d'ailleurs.
Il n'y a pas de chat dans le film, ce qui explique sûrement le fait qu'ils n'ont pas aimé ça. Le film repose sur un paradoxe de taille. Si Cronenberg ne cesse de nous dire que le corps est tout et que l'art est lui-même un corps renfermant du meaning, les crimes du futur, lui, n'a pas d'enveloppe. C'est un film sans chair, dévitalisé et apathique, qui mise tout sur des décors décrépits et des bidules, comme une chaise squelettique, un sarcophage d'autopsie ou un lit scarabée, inspiré de ses œuvres anciennes.
Les bidules.
Comment il parle des bidules?
Moi, je les aime bien, les bidules. Pour les bidules. Je trouve que c'est un des trucs qui a
ça aurait été des jouets pour les chats,
et
ils auraient moins fait les malins.
Ouais, c'est sympa.
Ça aurait été des grelots.
Ça fait penser à Giger un peu.
Ouais, de ouf.
Il y a un côté... D'ailleurs, je sais pas qui est l'artiste qui les fait, mais je pense que c'est le même avec qui bosse depuis longtemps, parce que le style est quand même reconnaissable.
Ouais, ouais, bah, c'est... Ouais. Moi, j'ai pas arrêté de penser à Existence à chaque fois que je voyais ces trucs en os. Hein.
C'est ça, mais même il y a un peu des machines comme ça, même le design dans Faux Semblant des ustensiles d'obstétricien, c'est un peu le même genre de design, donc ça doit être le même artiste qui bosse avec lui.
Quelle imagination, putain, en tout cas. Ouais. C'est fou, tous ces petits accessoires là.
Tu veux en acheter un?
Non.
N'oublie pas qu'il y a le Evigo.
Oui, voilà.
Accessoire
Evigo. Non, pas du
c'est
tout.
Bien plus qu'un accessoire.
Et non, bien plus qu'un animal de compagnie. Un vrai compagnon.
Oh.
De vie. Eh oui.
Evigo.
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 Merci Kevin pour la revue de presse. Voilà, un film qui a divisé la presse, un peu comme nous autour de la table. Attention, hein, on n'est pas en train de se foutre sur la gueule. Hein.
Non.
Attends que les micros soient éteints.
Comme des organes séparés les uns des autres.
J'ai l'impression d'être une tumeur dans ce groupe.
Oh, t'es dur.
Moi, je suis le foie.
Coupez-moi.
Tant que t'es pas cancéreuse, on va te garder, t'inquiète.
Gentil,
t'es merci. Comme un joli petit kyste.
T'es notre petit kyste à nous. Ah,
t'es notre beau kyste.
Mes beaux kystes.
Ah, le beau kyste. Bon, bah écoutez, je crois qu'il est déjà temps pour nous de se dire au revoir. Hein. On va voir ce qu'on match retourne, nous, la semaine prochaine.
Oui.
Voilà, c'était le match retour du Cronenberg, les crimes du futur avec mes belles tumeurs autour de la table.
Je
mes
suis
beaux organes.
Tumeur. Plus belle tumeur.
Oh, oh.
Tumeur un autre jour.
Oh, encore un petit. Non, il n'y a pas. Ça cherche quand même, je vois que ça cherche. Et ça
tumeur Témoiselle. Kyste de survie.
Oula, là. La semaine prochaine, qu'est-ce que nous match retournerons
Men.
Dans ce match retour Men.
Oui,
It's Rain.
Il a spoilé ma question. Men d'Alex Garland. On va rester un peu dans le genre horrifique, même si c'est pas vraiment un film d'horreur, hein, Cronenberg. Mais voilà, dans ce genre un peu bizarre, un peu.
Creepy.
Thriller psychologique.
On vous retrouvera évidemment notre épisode bande-annonce où on se fait des films qui suivra juste celui-là. Et sinon, les plateformes d'écoute, hein, comme d'hab, Spotify, Deezer, etc., blablabla, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et pour plus de matchs retour, plus de tout ça, si vous voulez tout réuni, c'est notre site internet fetabea.fr. Des bisous, à la semaine prochaine.
Salut.
Des bisous sur les boyaux.
Ciao.
Arrivederci.